et messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Figgets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Entre en matière. Bonsoir à toutes et à tous, bien sûr. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 à la Causerie. Et ce soir, nous sommes en compagnie de notre très cher Fabien.
Bonsoir.
Et notre DJ de ce soir, Clara.
Bonsoir.
Et puis Kamel, pardon MK, qui a fait l'ouverture, je me suis planté.
Mais c'est pas grave. Voilà. Je pense qu'on va mettre tout ça dans l'ordre.
Voilà, je mettrai les lettres dans l'ordre que vous
voulez. Voilà, exactement. Alors, vous êtes bien au 102.2 à la Causerie, sur Radio Canu. Comment on fait pour nous joindre, dis donc?
Comment on fait?
Eh ben, c'est très simple. Vous nous envoyez par mail. Vous pouvez nous joindre par mail, donc, du coup, à lacausericanu@gmail.com. Donc, la Causerie Canu, tout attaché en petites lettres. Nous avons également un blog. Le blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Tu fais ça super bien.
C'est vrai? Ouais, j'essaie d'articuler tout ça.
Ouais, je pense que là, tout le monde sait où on peut nous trouver maintenant.
Oui, mais je crois qu'il y a une troisième option, hein, pour ceux qui ne se détachent pas du tout de leur téléphone, où il y a le téléphone greffé dans leur main et qui adorent le boubouk. Bah, vous nous trouvez dessus, en fait, tout simplement, sur la causerie.
Mais préférez le mail ou le blog.
Exactement.
Pour nous écrire, c'est mieux.
Alors, ce soir, nous allons commencer avec toi, Fabien. Oui. De quoi vas-tu nous parler?
Oh, comme il fait ça. De quoi tu nous parles ce soir?
Alors, exactement, de quoi qu'on cause?
En fait, je vais vous parler de reconnaissance faciale ce soir, voilà.
Ah, et là?
Et ouais, c'est pas mal la reconnaissance faciale. Voilà, bonne soirée.
Voilà. Non,
en fait, la reconnaissance faciale, tout le monde en a entendu parler, mais souvent, on a du mal à voir ce que c'est. Donc juste quand même voir que ça se répand de plus en plus aujourd'hui, et notamment avec un outil dont tu parlais, MK, le fameux smartphone qu'on a collecté à la main. Et vous savez que c'est les smartphones, maintenant on nous dit gentiment, pour vous connecter à votre téléphone, vous refaites la reconnaissance faciale, vous
exactement.
Savez, hop, vous vous filmez et hop, il dit « Ah, mais c'est toi, comme je suis content de te voir !» Et il s'ouvre. De la même façon, maintenant, vous avez des applications comme Waze, Facebook, Google, qui pratiquent aussi la reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mot de passe, vous vous filmez et hop, ça ouvre vos applications. Donc on le voit en fait depuis maintenant environ 4-5 ans, ça s'est généralisé, on l'a de plus en plus autour de nous, en fait, cette reconnaissance faciale, mais... Ça, c'est des aspects les plus visibles de l'iceberg, parce qu'en fait, il y a d'autres choses derrière, beaucoup plus graves et dangereuses, dont je vais vous parler ce soir en deux parties.
Donc, ça c'est ce qu'on ne sait pas.
Parce qu'on nous vend
en fait le côté pratique, en fait.
Toujours, c'est comme ça, c'est toujours bien. Donc, comme tu disais, le côté pratique, vous voulez déverrouiller votre téléphone, vous vous mettez en face de la caméra, elle vous regarde, elle vous dit bonjour, enfin le téléphone vous dit bonjour, vous avez l'impression d'avoir un ami, c'est génial.
Ça remplace.
Le portable est déverrouillé. Et en fait, c'est Apple, si vous vous souvenez, qui a fait en premier avec ses iPhones, qui a mis en place la reconnaissance faciale sur les téléphones pour les déverrouiller. Et c'est pas un hasard, parce que Apple, en plus d'être une société qui donc fait des téléphones, ils font aussi en fait de la sécurité, peu de gens le savent, mais ils vendent aussi des outils de sécurité, dont notamment des outils sécuritaires de reconnaissance faciale. Et là, vous verrez que c'est pas par hasard s'ils ont voulu que ça se généralise. Alors, on va revenir un peu en arrière, parce que la reconnaissance faciale, c'est une idée qui est assez ancienne en réalité. On a l'impression comme ça que c'est nouveau. Mais en fait, dès qu'il y a eu des caméras, on a eu envie de faire la reconnaissance faciale. Si vous avez un peu de mémoire et que vous avez déjà vu des films du siècle dernier, non pas de mais des films de 1960, par exemple, 70, 80, des James Bond, par exemple, ou des films de science-fiction, vous avez pu vous croiser souvent la reconnaissance faciale. Vous savez, le méchant, il fallait lui couper la tête pour le mettre devant la caméra pour qu'il puisse ouvrir le coffre ou des trucs comme ça, vous voyez.
Ou enlever un œil.
Ou enlever un œil ou des choses comme ça. Voilà. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la reconnaissance électronique. Et en fait, on voit que c'est une idée qui germe dans la tête de plusieurs personnes longtemps avant qu'on puisse vraiment la mettre en place. En fait, c'est l'invention de la caméra vidéo qui va donner envie de faire ça. Et en fait, dès l'invention de la caméra vidéo, alors, une petite nuance entre caméra vidéo et caméra avec une bobine, c'est que la bobine, il faut recharger. En plus, après, il faut. J'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. vous avez compris ce que je voulais dire. Et alors que la caméra vidéo, c'est direct, c'est un flux direct, et en fait, vous pouvez voir directement l'image. C'est la différence. Et dès ce moment-là, des ingénieurs ont en fait planché sur l'idée que notre morphologie, qui est donc censée être unique, hein, c'est-à-dire tout ce qui nous caractérise, pourrait être comme notre empreinte digitale, un moyen en fait de nous sécuriser les choses, voilà, ou en fait de nous soulager la vie, comme disait un ingénieur en 1969. L'une des premières idées mises en avant, sera d'ailleurs en dehors de la sécurisation de nous faciliter la vie. En fait, c'est la sécurisation militaire qui va être mise, et c'est un ingénieur militaire qui va proposer que les coffres où se trouvent en fait les codes nucléaires aux États-Unis soient sécurisés par un outil de reconnaissance faciale. Et on est en 1969. Donc, on voit que ça, c'est pas tout neuf, quand même, comme idée. En fait, c'est le coût et le manque de puissance du numérique qui va faire qu'on va abandonner cette idée pendant plusieurs années. Parce que pour faire de la reconnaissance faciale, en fait, il faut filmer, il faut un ordinateur qui vous reconnaît, vous voyez, donc ça, voilà. Et en 1969, c'était un peu compliqué. Mais c'est ce qui va faire que ça va, on va dire, pas disparaître, parce qu'en fait, c'est resté dans l'esprit des gens quand même pendant toutes ces années, mais qu'on va attendre de pouvoir avoir les moyens de mettre en place la reconnaissance faciale.
Il fallait avoir aussi des ordinateurs assez puissants pour avoir ces fameux algorithmes qui permettent de reconnaître les visages.
Oui, parce qu'en fait, c'est ça. En réalité, pour vous reconnaître, il vous connaît pas, l'ordinateur. Il connaît des points sur votre visage. En fait, il fait ce qu'on appelle un mapping. Donc, d'ailleurs, c'est un mot totalement français. Hein. En fait, il vous dessine et il met les points principaux. Et en fait, si le visage qu'il a en face de lui correspond à plus de 95%, il estime que c'est la personne qui a effectivement enregistré son image pour être reconnue. Voilà. Donc, ça demande effectivement des calculs, des ordinateurs assez puissants.
Oui. Il faut une base de données dans tout ça.
Eh ben oui, je vais y venir, figure-toi. Vas voir, c'est là que ça devient un petit peu intéressant, toutes ces histoires. Et en fait, donc, les deux raisons du retour de cette technique sur le devant de la scène, c'est effectivement la miniaturisation des outils de prise de vue. Parce que maintenant, la caméra, vous l'avez sur votre téléphone, vous voyez, elle est toute petite, Vous n'avez plus une caméra à l'épaule, comme il y a encore 10 ans. Et l'augmentation de la puissance du numérique. Et effectivement, le fait d'avoir des ordinateurs ou des smartphones qui ont suffisamment de puissance pour faire tourner un algorithme de reconnaissance. Alors, c'est quoi le principe? La reconnaissance faciale, ça repose sur deux choses. D'abord, effectivement, une énorme base de données des visages existants. Parce que oui, pour qu'on puisse vous reconnaître, il faut aussi qu'on puisse ne pas vous reconnaître. Donc la reconnaissance faciale, il faut forcément à un moment donné que l'intelligence artificielle, qui est en fait qu'un algorithme, vous l'entraîniez, elle soit entraînée. Donc en fait, elle va avoir tout un tas de visages qui vont lui être mis, et puis le vôtre au milieu, ou qu'elle va enregistrer comme étant votre visage, c'est vous. Et en fait, ça ne peut pas se faire si vous n'avez pas une base de données existante. Et c'est là qu'en fait, on commence à s'interroger, parce que quand on fait ça sur son smartphone, on se dit normalement, il n'y a que mon visage, donc elle sait que c'est... Non, parce que comment il pourrait savoir que c'est pas vous, une autre personne, si, vous voyez? Il faut apprendre, en fait, à l'algorithme, voilà. Et en fait, quand vous faites ça, votre smartphone, si par exemple vous avez un smartphone sous Android, il va aller piocher dans la base de données d'une société de Google, une sous-traitante de Google, dont j'ai perdu le nom, pardon. Et en fait, à l'intérieur de laquelle se trouve 1 500 000 visages. Et il va s'entraîner sur ces 1 500 000 visages, il va mettre le vôtre au milieu, et hop, et quand il vous aura trouvé, il dit « ça y est, maintenant je sais te reconnaître, donc c'est toi à qui j'ouvrirai le téléphone ». Mais ça ne peut pas se faire sans une base de données. Donc ça interroge, parce que d'où sortent ces 1 500 000 visages? On va en parler. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, elle est beaucoup plus répandue que ce qu'on pense, cette fameuse
reconnaissance. Ça se collecte.
Ça se collecte, évidemment. Donc il faut effectivement avoir une base de données, et la deuxième chose, c'est avoir des ordinateurs suffisamment suffisamment puissant. Il faut savoir par exemple que les smartphones que vous avez aujourd'hui ont à peu près une puissance équivalente de calcul, hein. Donc faut pas dire c'est exactement la même chose, mais c'est la capacité de truc plus la connexion internet. Vous avez exactement la même puissance qu'un PC de bureautique d'il y a 3 ans. Donc en fait, en réalité, vous avez dans les mains la puissance suffisante pour faire tourner ces outils. Et même quand en fait vous enregistrez votre téléphone pour ouvrir votre visage pour pouvoir ouvrir votre téléphone, mais en fait il s'en tient pas simplement à votre visage. Ah non, il va enregistrer votre photo où vous l'avez prise, l'adresse IP avec laquelle vous l'avez prise. L'adresse IP, c'est votre adresse internet. S'il peut, il va y coller votre boîte mail. Parce que tout ça, il le connaît. C'est votre smartphone, donc il sait bien qui vous êtes. Vous avez un compte dessus, donc voilà. Et il va mettre tout ça chez Monsieur Google ou chez Monsieur Apple.
D'accord.
Ou chez Monsieur Huawei, selon la marque. J'ai fait 3 marques.
Voilà.
marque que vous avez. Vous voyez, donc, c'est un peu flippant quand même, hein, quand on y réfléchit. Parce qu'il faut créer cette fameuse base de données qui permet aux outils de reconnaissance faciale de fonctionner. Et voilà, comment vous fournissez ça?
Ça fait peur.
Ah, c'est pas fini, attends. Donc, la première utilisation les premières utilisations qui ont été pensées pour la reconnaissance faciale numérique, eh ben, c'est la sûreté et le commerce. Alors, la sûreté, évidemment, si ça peut généraliser plus facilement, ces deux secteurs ont sauté dessus. Bah, d'un côté, les militaires et paramilitaires et les flics, hein, qui ont dit « Ah, mais c'est vachement bien, parce que si on peut reconnaître les gens dans la rue avec une caméra, comme ça, on pourra reconnaître un petit peu qui est qui, voyez ?» Et puis le commerce, il a dit « Ah, ça c'est cool, parce que si j'arrive à mettre le nom de la personne sur les gens qui se baladent dans la rue, je peux cibler mes pubs et cibler les ventes, vous voyez ?» Sympa, hein?
D'accord.
Ça va, attendez, c'est pas fini.
Non, parce que la pub ciblée, ça existe depuis déjà pas mal de temps.
Ah oui, mais attends.
La reconnaissance faciale.
Oui, mais tu ne connais pas la pub ciblée, comme on l'appelle. Elle arrive, celle-là. Et donc voilà. Donc je vous propose, on va commencer par le commerce, hein, tout simplement. Et donc, mesdames, messieurs, bienvenue au 21e siècle qui vous regarde littéralement. Parce que c'est vraiment ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, dans le commerce, on a envie de mieux cibler et de mieux influencer. Vous savez que le but quand même du commerce, depuis l'invention des relations publiques, c'est de vous vendre des objets dont vous n'avez pas besoin au départ, mais de vous créer ce besoin. Donc, dans le commerce, l'idée de pouvoir suivre des clients de façon fine a toujours été une obsession complète. C'est-à-dire que dès l'invention en fait du commerce de masse, il y a eu cette idée de se dire plus on connaît les clients. Alors pendant des années, on l'a fait avec des sondages. On a téléphoné, oh, est-ce que vous aimez tel produit, machin et tout. Puis là, ils se sont dit, c'est vachement plus pratique de le faire avec les emails. Vous voyez ? On l'a vu, hein, on est passé de la publicité de masse à l'ère de la publicité ciblée dont tu parlais, MK, et c'est le fait que si vous faites une recherche sur votre moteur de recherche, généralement, 5 minutes après, vous avez une pub qui correspond à la recherche que vous avez faite dans votre réseau social, par exemple socio-commercial. Et on voit qu'il y a un lien, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la publicité ciblée. Mais la reconnaissance faciale, dans ce cadre-là, elle a un but encore plus pernicieux. Elle va vous cibler quand vous ne regardez pas les écrans. C'est là qu'elle va devenir intéressante pour le commerce. Elle va vous cibler, par exemple, quand vous marchez dans la rue. Et là, vous me dites, mais comment elle fait? c'est simple. De plus en plus de magasins et d'écrans publicitaires dits dynamiques, vous savez, c'est les fameux écrans en fait
vidéo
en réalité, sont équipés de caméras. Et ça, vous ne le savez pas forcément. Mais en fait, ils sont équipés de caméras. Et en fait, ces caméras, elles vous filment et elles vous reconnaissent. Et en fait, comme vous avez laissé votre visage à Facebook, Google ou Apple, et qui en fait, il est vendu dans les métadonnées vendues par Facebook, Google ou Apple, ils peuvent très bien avoir votre visage, savoir qui vous êtes finalement, vous reconnaître. Vous voyez ? Et donc, du coup, comme elle arrive à vous reconnaître, à vous voir, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va pouvoir vous proposer une publicité ciblée, mais elle va pas le faire sur l'écran. Parce que ça se verrait, vous voyez. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vous passez devant un écran publicitaire qui appartient à une marque lambda, par hasard à La Part-Dieu, à Lyon. Vous voyez, passez devant, hop. Puis vous rentrez dans un magasin. Et dans ce magasin, en fait, étonnamment, vous ne remarquez pas, mais il y a souvent maintenant des caméras qui sont à l'entrée du magasin et qui vous filment. Mais ce n'est pas pour les voleurs seulement, c'est aussi pour la reconnaissance faciale. Et étonnamment, de plus en plus, dans pas mal de magasins de marques, dont je ne les citerai pas, parce que ce serait mal de dire qu'ils utilisent la reconnaissance faciale, par exemple Nike ou Foot Locker ou voilà, GoSport, par exemple,
pour pas les citer.
Premier, pour pas les citer. Non, parce que c'est tellement dégueulasse qu'autant les citer. Et, mais aussi Apple, et maintenant la Fnac qui va s'y mettre aussi, et Darty. En fait, quand vous rentrez, étonnamment, vous allez être surpris, mais le vendeur va vous accueillir et va vous dire, attendre que vous approchiez du rayon et, bizarrement, il va sortir le fameux haut de la couleur que vous aimez. Car bizarrement, il saura que vous aimez le pourpre. Voilà. Ça peut paraître tout bête. D'accord. Mais vous avez comme ça l'impression qu'on va fidéliser. C'est quand, ah, on me connaît. On sait qui je suis. Vous voyez. De la même façon, quand vous allez rentrer dans un magasin de matériel informatique, étrangement, bah, si vous êtes un geek, un peu comme moi, on va plutôt vous proposer des PC un petit peu plus gonflés, un petit peu plus gamer, comme on dit, que de vous proposer un PC de bureautique qu'on proposera plutôt à la personne qui est à côté de vous et qui fait que de la bureautique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vous a reconnu. C'est-à-dire que la reconnaissance faciale sert à ça, vous voyez ? Et ça sert à vous connaître très bien, en fait. Mais ça s'arrête pas là. Les panneaux publicitaires qui vous entourent de plus en plus dans les bus, tout ça, bah de plus en plus, en fait, ils ciblent leur publicité sans que vous vous en rendiez compte. Et si vous faites attention, en fait, vous remarquerez, quand vous êtes dans le métro, que les panneaux, ils se désynchronisent. C'est-à-dire que normalement, ils sont censés tous tourner avec la même pub au même moment. Puis petit à petit, ils vont se désynchroniser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, soit par la reconnaissance faciale, soit par ce qu'on appelle le digital direct, c'est-à-dire les portables qui sont connectés et qu'ils arrivent à lire, parce qu'il y a des, il faut penser à blinder son portable aussi. Et ben en fait, ils vont mettre des publicités plus longtemps sur certains thèmes parce que la personne qui est à côté du panneau, ben, elle aime bien ce thème-là. Le cinéma, par exemple, ou la bouffe. Ouais. Ça fait peur, hein ?
Mais ouais. Bah, là, je suis impressionné, effectivement.
Alors, ça peut paraître de la science-fiction, mais en fait, ça ne l'est pas, en fait. C'est de plus en plus utilisé. Il existe même, d'ailleurs, maintenant, des magasins où vous pouvez rentrer, vous servir et partir. Mais vous serez ponctionné sur votre compte Amazon, parce qu'Amazon a mis en place des magasins à reconnaissance faciale. Vous faites photographier, vous donnez votre photo à Amazon, et pas de problème, il n'y a plus besoin après de faire quoi que ce soit. Elle vous a reconnu, ce sera facturé. C'est beau, hein.
Donc en fait, on rentre dans la boutique en libre-service.
Ouais, mais du coup, vous consommez plus, parce que le principe de croire que c'est gratuit, ça donne l'impression, mais c'est pas vrai. Donc pour l'instant, on peut trouver ça drôle et amusant, mais en fait, c'est assez flippant, parce que l'ensemble de nos vies sont aujourd'hui fichées, suivies, archivées par des entreprises privées. Voilà. Et quand vous êtes filmé dans un magasin à la caisse, et ce, malgré que votre visage soit associé ou pas, que ce que vous le vouliez ou non, parce que vous êtes filmé à la caisse, et bien en fait, votre visage, il est automatiquement associé à vos achats. Mais aussi à votre nom, parce que vous payez souvent par carte bleue, donc on connaît votre nom. Et il est aussi associé souvent à votre adresse, parce qu'on vous demande votre code postal. Vous n'avez pas remarqué que de plus en plus on vous dit « C'est quoi votre code postal ?» Ben, c'est parce que ça permet de faire une base de données plus précise. On a votre adresse, votre code postal, on sait à peu près où il faut cibler, vous voyez, c'est sympa. Où j'installe mon prochain magasin. Oui, c'est un petit peu... Voilà. Et quand vous avez le visage, ben, le compte client, mail d'une personne, ben, c'est tout bénef pour la société qui vend. Voilà pour le parti commercial, c'était sympa, hein ? Donc, je continue sur un aspect plus qu'on ne connaît pas, mais qui est assez sympa. Avant de parler de l'application de flicage et reconnaissance faciale, j'en parlerai après la pause musicale, je vais vous parler de l'élargissement de cette technique pour les personnes qui perdent la vue. Parce que c'est comme ça qu'on nous vend aujourd'hui la reconnaissance faciale et la reconnaissance d'espace. Donc on nous dit, en fait, si on peut reconnaître un visage, on peut reconnaître tout ce qui entoure une personne. On peut apprendre un algorithme à reconnaître une chaise, une table, machin. Donc la première société qui vend la reconnaissance faciale, qui est une filiale du groupe Apple, donc, en fait, ils ont dit, on va créer sur les smartphones, ça s'appelle une application. Je suis fatigué.
C'est difficile.
Oh, je suis fatigué, je perds mes notes en plus. Alors, donc du coup, on va créer une petite application où en fait, les gens vont mettre une caméra cravate quand ils sont déficients visuels ou aveugles. Vous voyez tout ce qu'est une caméra cravate ou pas ?
C'est une caméra, j'imagine.
On porte pas tous des cravates, mais c'est une toute petite caméra qu'on met au niveau là où on mettrait une cravate normalement, en fait. Donc voilà. Et en fait, la caméra elle va filmer l'environnement en face de ces personnes. Et en fait, on vous vend ça en disant mais c'est génial parce que elle va vous dire telle personne se dirige vers vous et semble vouloir vous parler. Parce qu'elle va voir apparaître, avancer le visage avec une expression de « tiens, je voudrais te parler ». Puis on vous dit aussi, il va pouvoir dire « attention, il y a une chaise là, et puis là, il y a une table, fais attention, et puis à 2 mètres, il y a ça ». Sur le papier, ça semble vachement positif. Moi aussi, quand j'ai lu ça, j'ai dit « ah, mais c'est cool, en fait,
oui, carrément,
c'est vachement bien ».
Ça peut faciliter la vie.
Ouais, non, parce qu'en fait, déjà, comme le disent beaucoup d'associations de personnes malvoyantes et aveugles, ça rend les personnes dépendantes totalement à la technique. C'est-à-dire que le jour où ça ne fonctionne pas, elles ne savent plus faire autrement. Parce que en fait, on n'apprend plus avec ces techniques-là, notamment dans certains certains coins des États-Unis. Ils n'apprennent plus en fait aux personnes aveugles à faire ce qu'on appelle le toucher, c'est-à-dire pouvoir voir avec une canne ou avec les mains. Et du coup, en fait, bah, ils sont totalement perdus quand il n'y a plus cet outil. Vous voyez, surtout quand c'est des enfants.
D'accord.
Et puis surtout, la société en question, là, qui est une filiale d'Apple, hein, et ben en fait, elle a décidé qu'elle allait mettre plein de pubs. Dans sa... Bah oui, parce qu'elle l'offre gratuitement, mais si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc voilà. Et donc en fait, eh ben, ça soumet les gens qui ont cette application à des tonnes de pubs qu'ils n'avaient pas avant. Bah en fait, ça s'appelle juste créer un nouveau marché capitaliste. Ah,
ça va jusqu'à ce point-là, quoi.
Eh oui. Donc voilà, ça c'était les deux premiers aspects. On va faire une petite pause musicale, comme ça je pourrais boire un coup. Et on revient après
oui.
pour la partie.
En forme.
Fliquons-nous.
Allez, ça marche.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et on vient d'écouter The Who, The Legend of Mother Swan. Vous voyez, ça se dit The Who. C'est dur à dire parce qu'en fait, ils sont de Mongolie. Et donc, ça ne se prononce pas comme à l'anglaise.
Bon.
Voilà. On parlait de quoi?
Eh bien, à noter. On reprend la suite?
Bah oui, on parlait de quoi?
Du flicage, non? Il n'y avait pas une histoire de flic quelque part?
Ça y est, on y arrive. Non. On parlait de reconnaissance faciale, et donc on va continuer, mais cette fois sur les aspects flicage généralisé, en fait, grâce à la reconnaissance faciale. Alors, on a vu l'aspect capitaliste hein, avant la coupure. Et il est temps de parler des applications militaires et policières de la reconnaissance faciale. Et elles sont en fait très nombreuses et plutôt flippantes. Alors avant de continuer, je vais juste souligner que la France est un des rares pays européens à autant promouvoir et légaliser, voire légitimer plutôt, la reconnaissance faciale. D'ailleurs, elle vient même de le généraliser pour se reconnaître, pour se connecter au service public en France. Voilà. Et on est un des rares et un des seuls pays européens à faire ça. Aucun rapport avec le fait qu'on a plein de start-up qui bossent là-dessus. Hein. Bon, ça, c'est un pur hasard. Voilà. Au-delà de ça, la France n'a pas du tout empêché que la police et l'armée puissent utiliser la reconnaissance faciale. Au contraire, au nom de la lutte contre le terrorisme, et les lois, en fait, ont généralisé la possibilité de créer des fichiers géants de citoyens pour mieux les protéger.
Tiens, donc la bonne affaire.
Voilà. Donc, plusieurs experts hein, estiment donc qu'aujourd'hui, la police et l'armée disposent d'une base de données complète ou presque de ses concitoyens, c'est-à-dire de nous, pour être très, très clair, et en lien avec les caméras de vidéosurveillance. Bah oui, parce que comme il y en a de partout maintenant, eh ben, en fait, vous pouvez créer autant de fichiers que vous voulez. Et quand vous arrivez à croiser caméras de vidéosurveillance, algorithmes, fichiers des cartes d'identité et autres documents officiels, ben, vous pouvez créer une base de données qui
presque complète, hein,
presque complète, et qui reconnaît à peu près tout le monde. Et d'ailleurs, ça crée un problème parce que les gens qui n'ont pas de papier, du coup, sont repérés encore plus facilement par ces algorithmes. Vous voyez, c'est horrible, hein, mais ça permet comme ça de faire la chasse aux sans-papiers si cher à ce gouvernement. Voilà, c'est dégueulasse, hein, mais voilà. Et c'est là que tout repose et qu'on peut comprendre que le flicage de nos visages et attitudes, en fait, est plutôt généralisé. Il n'est pas réservé, en fait, à la partie capitaliste de la reconnaissance faciale. C'est aussi un outil de gestion et de mise en place de contrôle des masses et des populations. D'ailleurs, ne vous étonnez pas que la France ait rattrapé son retard et ait mis la fibre de partout. Et accélère l'installation de la 5G. Bah oui, parce que pour pouvoir faire de la bonne reconnaissance faciale, il faut que vous ayez un bon réseau.
D'accord, bah, oui, c'est pour ça que le gouvernement pousse à ce que la France soit vraiment en tête de peloton pour ce qui est technologique. En fait.
Bah oui, parce que si vous avez un réseau 56K à l'ancienne, ou même à
c'est
ADSL...
Pas, c'est vraiment pas pour que papy mamie dans le village ait ses chaînes télé pour regarder Colombo, par exemple.
C'est pour que papy et mamie aient Colombo toute la... Alors, comme le souligne l'association La Quadrature du Net, il ne s'agit pas simplement de savoir si la reconnaissance faciale peut ou non être encadrée correctement, mais bien de l'interdire, car en fait, elle n'offre pas la sécurité nécessaire et elle entrave de fait nos libertés parce qu'elle a un côté croisé sur l'ensemble des fichiers. C'est-à-dire qu'en fait, au nom de la sécurité et de la sûreté, on est en train de créer un système où vont se croiser dans un seul et même fichier vos noms, prénoms, adresses, visages, enfin tout, vous voyez, et en termes de sécurité...
Et de liberté,
comment dire, c'est assez limité quand même, hein, vous voyez, un truc un petit peu étrange. Et surtout, c'est fait sans qu'on vous le dise. Et c'est ce qu'il souligne, c'est qu'en fait, c'est surtout fait sans que vous en soyez averti. Parce que la seule mention qu'on est obligé de vous dire, c'est « espace sous vidéosurveillance ».
Oui, mais on peut très bien nous dire, si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre.
Oui, mais alors là, je te répondrai comme Edward Snowden, c'est pas parce que tu n'as rien à dire qu'il ne faut pas lutter pour la liberté d'expression.
Voilà. Ça, c'est bien répondu. C'est ce que je voulais entendre.
Donc, c'est bien en fait une vision avant tout politique qui est à l'œuvre, en réalité. Beaucoup plus politique qu'autre chose. C'est pas parce que c'est faisable que c'est politiquement viable. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on est obligé de le faire. Voilà. Et comme le souligne le juriste de la Quadrature du Net, là je vais le citer, nous sommes confrontés à une banalisation, à une normalisation de cette technologie. L'urgence pour nous, c'est l'interdiction de la reconnaissance faciale pour des utilisations policières. C'est notamment ce qui vient d'être fait en Californie pour les images de caméras piétons. En France, nous sommes à l'exact opposé. Les industriels plaident pour un assouplissement du cadre juridique qu'ils considèrent aujourd'hui trop strict ou trop flou. Voilà.
Oui.
Donc, si vous comprenez bien la fin de la phrase du juriste, non seulement en fait en France on va donner les moyens à la police, mais quand on vous parle d'industriel, c'est qu'on va sous-traiter la reconnaissance faciale. Et là, on nous dit, vous inquiétez pas, en termes de sécurité, tout va bien. Évidemment.
Tu aurais un exemple par hasard où c'est allé plus loin?
Eh ben, j'ai cherché et en fait, on n'a pas les noms des sociétés parce que ça, c'est du secret défense, comme d'habitude. Mais effectivement, on sait qu'aujourd'hui, une partie de la lutte antiterroriste et du traitement des données des reconnaissances faciales sont faites par des sociétés privées.
D'accord. Voilà. On sous-traite tout ça au profit du capitalisme, bien sûr.
Bah oui, puis surtout, on donne ces fichiers à des sociétés privées. Donc moi, je sais pas, ça devrait quand même nous choquer un minimum. Quand même, enfin, mais là, a priori, non. Alors, on voit bien, c'est le chemin de l'automatisation de la sanction qui se met en place. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, on va vous filmer et pas, vous allez prendre une amende parce que vous faites un truc qui est illégal aussi. Ça, c'est aussi une chose qui peut se mettre en place. L'enjeu est crucial parce que la reconnaissance faciale peut être utilisée sans que personne ne s'en rende compte. Alors, comme le dit la sociologue Élodie Lemaire, et je vais la citer, elle le souligne, il faut être en mesure d'être clair sur les objectifs qu'on assigne et ce qu'on veut faire. Faut-il inventer de nouveaux droits dans le registre de l'intimité, de la vie privée? Jusqu'où doit-on surveiller dans un régime dit démocratique? Quelles alternatives peut-on proposer à ceux qui ne souhaitent pas être ciblés par le dispositif? Je ne sais pas quelle forme doit prendre le débat, mais il semble que c'est nécessaire et déterminant de réfléchir à l'encadrement et aux usages qu'on veut assigner à la reconnaissance faciale. Et en fait, c'est ce qu'elle souligne, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça a été mis en place sans qu'il y ait de débat citoyen. J'aime pas trop cette expression, mais même ça n'a pas existé en fait. C'est-à-dire que ça s'est fait au travers de lois sans qu'on nous dise, bah, vous avez un fichier national qui va exister, où on va ficher tout le monde, on va mettre votre visage, puis tout va bien. Alors on le voit, hein, cet outil soulève d'énormes interrogations et ouvre la porte à une forme absolue de contrôle sur les citoyens. Et c'est clairement pas acceptable. Enfin, j'espère qu'à la causerie, personne ne va me dire « Si !»
Ah ben non,
si, moi je veux qu'on nous contrôle, parce que c'est hachement mieux. Voilà. Vous pensez que j'abuse ? Renseignez-vous un petit peu sur la Chine. Aujourd'hui, la Chine a mis 420 millions d'habitants sous le contrôle du fameux bonus-malus social. Oh, ça sonne bien, hein, bonus-malus social. On sent l'arnaque.
Ça sent la mutuelle.
Si vous êtes un bon citoyen, vous pouvez avoir accès à des choses en plus. Si vous êtes un mauvais citoyen, mauvais payeur, dissident, jeteur de papier au sol, vous pouvez vous retrouver totalement mis au banc de la société. Voilà. Nous avions déjà parlé de ça dans la causerie 302 du 16 juin 2019. Il y a des très bons reportages dessus. Mais tout ça se fait grâce à 80% est adossé à 80% sur la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale. Tout va bien.
Mais c'est effrayant parce qu'effectivement, en Chine, c'est comme ça que ça se passe.
Oui. Et quand on sait que la France met des lois qui permettent de faire ce qui se fait en Chine, c'est flippant de se dire qu'une démocratie prend la même voie qu'une des plus grandes dictatures de la planète. Voilà. Vous pensez que jamais ça sera mis en place en France? Alors, moi, je pense que vous êtes à peu près faux. Parce que rien qu'à Lyon, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez être verbalisé sur une simple vidéo. Eh oui. Il y a des rues à Lyon où c'est marqué, vous pouvez être verbalisé
par vidéo. Comme à Nice, et effectivement.
Est-ce que vous croyez vraiment quand on vous dit, il y a tout le temps quelqu'un qui regarde la vidéo? Moi, non. Je suis persuadé que non. Je suis persuadé qu'on va utiliser des algorithmes de reconnaissance faciale et puis qu'en fait, ce sera tellement plus simple, on n'aura plus besoin de laisser quelqu'un qui regarde la vidéo. Et ça va plus vite, plus simple. Qu'un projet de loi est aussi en cours de lecture et de mise en place pour donner le droit de contrôler des zones en usant des outils de reconnaissance faciale. Tiens donc, c'est étonnant. Qu'on commence à le mettre en place, l'idée dès l'école où, par exemple, pour manger à la cantine, maintenant les élèves sont reconnus par reconnaissance faciale dans plusieurs établissements.
D'accord.
Ah, mais ce serait pas pour le généraliser, ça? Oh, bah voyons. Non. On n'y croit pas.
On fait quoi? On fabrique des bons petits soldats? On fabrique des bons petits
citoyens? On habitue les gens, en fait, à être constamment contrôlés. C'est un réel problème, quand même. Faut pas non plus le nier, le minimiser. Quand les enfants commencent à trouver normal soit de mettre leurs empreintes digitales, soit d'être filmés pour pouvoir manger à la cantine, mais en fait, vous créez une société de contrôle absolu où les enfants trouvent ça logique.
Avec une nouvelle normalité.
Bah, c'est ça. Et c'est créer une normalité un peu flippante, hein, quand même. Hein. Et il serait malvenu de penser d'ailleurs que seuls les réactionnaires et les gens très très à droite souhaitent cela. Moi j'ai déjà lu et entendu des écolos par exemple, hein, plutôt classés à gauche, nous expliquer que ce serait pas plus mal de mettre une note écologique aux gens et d'instaurer un contrôle. Un peu comme en Chine quoi.
D'accord.
Voilà. Ça me fait flipper, hein. Je sais pas vous, mais moi ça me fait hyper flipper. Voilà. C'était juste pour la partie vous allez mal dormir ce soir.
Tout ça au nom de la sécurité et de la lutte de
toujours
pour faire passer la pilule.
C'est alors là le pilier c'est la lutte antiterroriste hein, parce que ça permet de tout faire passer. Bah on vous dit oh là c'est pour lutter contre les terroristes, tout le monde est content.
Ça fait consensus.
Quoi. Et le problème c'est que ça devrait pas faire consensus parce que abandonner de la liberté au profit de la sécurité, ben ça craint. Et je veux dire que c'est historiquement, on sait où ça mène quoi. Ça mène rarement à des régimes où ça va bien. Enfin, voilà. Donc, faites un peu, il suffit de faire un peu d'histoire, hein. Quand les gens ont décidé de mettre plus la sécurité en avant que leur liberté, ben, assez vite, on a entendu le bruit des bottes, quoi. Donc, voilà. Sûr. Ce serait bien de pas l'oublier et ça peut aller très, très vite, contrairement à ce qu'on croit. Et ça, une démocratie, c'est toujours très fragile, comme on dit. Et je vais quand même vous donner quelques.
Bah oui.
Quelques endroits où on peut trouver des infos.
C'est ça. Où est-ce qu'on trouve tout ça?
Ah, voilà. Alors moi, je vous invite à aller lire le site de l'association La Quadrature du Net, hein, qui ont fait un énorme travail dessus. Ils ont fait un dossier super passionnant, dont je me suis beaucoup inspiré ce soir, hein, je vous le cache pas. Vous pouvez aussi aller sur le site Lyon sous surveillance. Vous tapez Lyon sous surveillance, vous allez le trouver. Ça, c'est lyon sous surveillance.net, pardon. Et c'est une carte interactive des caméras de vidéosurveillance. Bah, vous allez être halluciné du nombre de caméras qu'il y a au mètre carré à Lyon. C'est un truc de fou. Le site de la Ligue des droits de l'homme aussi a mis en ligne un dossier assez intéressant sur les libertés individuelles, c'est-à-dire ce que vous avez le droit de refuser et vous avez le droit de demander qu'on efface aussi, parce qu'aujourd'hui les lois n'existent pas encore totalement. Donc vous pouvez encore demander aujourd'hui à être sorti de certains fichiers. Donc,
sur les fichiers de l'État ou
ouais, sur les fichiers de l'État. Sur les fichiers privés, il faut passer par le tribunal. Mais parce que généralement c'est que vous avez accepté les conditions générales de vente, vous savez. Mais par contre sur les fichiers de l'État, il y a des choses que vous pouvez faire enlever, donc vous pouvez aller voir sur la Ligue des droits de l'homme. Voilà, c'est un sujet qui est pas de la science-fiction, qui est bien un sujet d'actualité et il en va de notre capacité à refuser cela pour ne pas sombrer dans une société du contrôle absolu. Et je n'oublie pas une phrase que j'aime beaucoup. Le contrôle absolu n'est jamais que l'autre nom de la dictature.
Wow. Ça vaut à votre réflexion, bien sûr.
Donc voilà.
On va passer une petite coupure musicale. Exactement.
Allez. Quel que soit le décor, il y a des loups dans tous les ports. Il y a des ports un peu partout. Il siffle lorsque tu passes, il renifle, il persifle, il te mate, il te défroque de leur regard de prédateur en rut. Ils se croient forts car ils sont plusieurs, ils aiment faire peur et parlent fort. Ils bavent, ils gémissent, ils allaitent. Ils testent leur pouvoir, leur petite tronche posée sur un bord de trottoir. Sur un bord de comptoir, ils traînent leur libido débile et leurs pulsions animales. L'œil baveux et la pensée salace, paraît qu'il faut couvrir nos cuisses et rester à notre place.
Retourne à ta place.
Quel que soit le décor, il y a des loups dans tous les ports. Il y a des ports un peu partout. Quel que soit le décor, il y a des loups dans tous les ports. Il y a des ports un peu partout. Balance, balance, balance un peu plus fort. Balance, balance ton port par-dessus bord.
Si t'as pas envie qu'il te regarde, retourne tes garés dans ta garde-robe. Enfile ta plus large soutane, baisse la tête et enfile tes tatanes. Oh là là, une main au cul, c'est pas la fin du monde non plus. C'est un compliment, une prise de contact un peu maladroite. Soit, mais bon, l'homme est un prédateur, un chasseur, un coureur. Toi, t'es une petite gazelle qui aime souffrir pour être belle. Alors ne fais pas ta chienne de garde, sois heureux qu'on te regarde.
Quel que soit le décor, il y a des loups dans tous les ports. Il y a des ports un peu partout. Balance, balance, balance un peu plus fort. Balance, balance ton port par-dessus bord. Balance, balance, balance un peu plus fort. Balance, balance ton port par-dessus bord. Balance, balance, balance un peu plus fort. Balance, balance ton port par-dessus bord. Balance, balance, balance un peu plus fort. Balance, balance ton port par-dessus bord.
Et c'était Johanna avec Balance, autour de Balance ton port par-dessus bord. Et c'était dans la causerie, au 102.2, sur Radio Canu ou sur radiocanu.org. Et maintenant, c'est l'heure des brèves et chose extraordinaire, Clara va lire des brèves.
Donc, comme toutes les semaines, il y a la permanence d'aide aux travailleurs sans papier, du lundi au vendredi de 10h à 12h, à l'Union départementale CGT, qui se trouve 215 cours Lafayette, dans le 6e.
Pour le lundi 21 octobre, il y a une permanence juridique de soutien aux sans-papiers et à leurs proches, donc de 18h30 à 20h, à la Lutine, c'est au 91 rue Montesquieu, Lyon 5e.
Toujours lundi 21 octobre, il y a un rassemblement contre les féminicides à 18h30, place Louis Pradel, à côté de l'Opéra.
Toujours le lundi, hein, il s'en passe des choses le lundi. Il y a le 9e anniversaire du collectif, donc.
Du 21 octobre.
Voilà, qui
non, mais il s'appelle comme ça.
Voilà, collectif du éponyme, du même nom. Donc, le collectif du 21 octobre, créé suite à la répression policière des mouvements sociaux pendant tout le mois d'octobre 2010, et en particulier suite à la garde à vue géante sur la place Bellecour du 21 octobre, vous invite à l'occasion de son 9e anniversaire de lutte pour la défense des libertés fondamentales. Le rendez-vous est donné donc ce jour-là à 18h30, de 18h30 à 21h à la Bourse du Travail, donc à Place Guichard, et c'est dans la salle A.
Et enfin, mardi 22 octobre, formation débat sur la réforme des retraites à la Bourse du Travail. Le collectif Nos Retraites propose une formation débat sur la réforme des retraites de Macron le 22 octobre, mardi donc, à 19h30 à la Bourse du Travail de Lyon, salle C. Et la Bourse de Travail se trouve 205 places Guichard, à Lyon 3.
Waouh, vous avez fait ça tellement bien.
Ah, merci.
Et voilà, non mais c'était bien, moi j'aime beaucoup. C'est en plus, vous avez tous des deux une voix pour faire de la radio.
C'est vrai.
Ouais, ouais. Ah ouais. C'est ça.
Non mais on me le dit tout le temps.
Bah, pas moi.
Souvent.
Bon, et ben voilà, et ben on va finir plus tôt ce soir. Non, on va pas tuer le chien de Mickey, hein, c'était pas quelle très mauvaise blague.
Mais j'ai pas compris la blague.
Bah, plus tôt, on va finir plus tôt, voilà. Bon.
Je pensais que c'était une blague salace, mais c'est pas grave.
Non, c'est une blague nulle. Et voilà, et donc du coup, ben on va vous laisser et on va se quitter. Comme il pleut, qu'il fait pas beau, tout ça, ben t'as choisi un titre.
Oui, l'été. L'été de Vivaldi.
Ah,
des quatre saisons.
Mais comme Clara, elle voulait rentrer pas trop tard, elle a pris que le mouvement numéro 3.
Voilà.
Elle a dit, on prend que le numéro 3 presto.
Donc au lieu de 20 minutes, ça durera 10 minutes.
C'est exactement ça.
C'est juste un échantillon, un aperçu.
C'est un aperçu. C'est pour donner envie aux gens d'aller écouter Vivaldi.
Voilà.
On n'écoute pas assez de classiques en plus.
Non, c'est vrai. Eh ben, on vous laisse et puis on vous dit à la semaine prochaine. Et puis, ben, portez-vous bien et n'hésitez pas à être vous-même.
Au revoir à tous. Gros bisous. Bon dimanche.
Salut.